Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
La semaine dernière, les djihadistes de l'État islamique s'attaquaient à la ville de Palmyre, au centre de la Syrie. Dimanche, l'armée du régime de Bachar al-Assad a repoussé les assaillants qui menaçaient non seulement de s'emparer des champs gaziers entourant la ville dans le désert, mais aussi de détruire le plus important site antique de Syrie classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, entre les ruines de la guerre et les ruines antiques, détruites dans des mises en scène tout à fait contemporaines, le télescopage des temporalités et des émotions nous interroge tout de même. Les ruines du passé valent-elles plus que les ruines du temps présent qui recouvrent les morts de la guerre dont le nombre dépasse les 210 000 en Syrie? Et encore sans doute ce chiffre est-il en dessous de la réalité après 4 ans exactement de conflit, enfin 4 ans et 2 mois, puisqu'on datait le début des événements syriens du mois de mars il y a 4 ans. Alors qu'est-ce qui se cache derrière la stratégie destructrice de l'État islamique? Cherche-t-il à mettre en concurrence les vies humaines et le patrimoine? Comment attaquer qu'il est par les raids aériens de la coalition internationale parvient-il à conquérir de nouvelles villes, et en Irak ou en Syrie? L'armée de Bachar el-Assad qui a repoussé les assauts des djihadistes autour de Palmyre a connu de nombreux revers, cela dit, au cours des derniers mois, et on commence à dire que la fin du régime syrien serait proche, gardons le conditionnel. L'Arabie Saoudite a même annoncé qu'elle voulait réunir à Riyad en juin les différentes tendances de l'opposition politique et militaire syrienne, à l'exception des djihadistes, pour préparer, je cite, l'après Bachar el-Assad. Le régime syrien donc court-il à sa perte, et quelles conséquences pourrait avoir cette fois sa ruine à lui? Je voudrais tout d'abord que je salue Jean-Pierre Filu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien sûr un des grands spécialistes de cette question que nous suivons, cette actualité syrienne que nous suivons très régulièrement, bien sûr, avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation des Potrons Minés. Et puis, nous avons au téléphone Maurice Sartre. Bonjour, Maurice Sartre.
Bonjour.
Professeur d'histoire ancienne à l'université François Rabelais de Tours. Vous êtes peut-être un des plus savants, quoi qu'on ne va pas offenser Jean-Pierre Filu, qui s'y connaît en Palmyre, mais sans doute un des plus savants sur ces questions de Palmyre. Ça fait plus d'une semaine que Palmyre est menacée, Maurice Sartre. J'imagine que vous suivez la situation de très près depuis le début. Est-ce que vous êtes inquiet? Et pour quelles raisons sommes-nous inquiets concernant la destruction éventuelle de ruines antiques?
Pourquoi on est inquiet? Il y a quand même toutes les raisons d'être inquiet, parce que le groupe Daesh nous a montré ce dont il était capable en Irak, même si il ne faut pas tomber dans le piège de leur mise en scène. Ils sont capables de détruire parfois des choses qui en réalité sont des moulages en plâtre, quitte à vendre en douce les originaux.
Ah voilà, il y a du marché entre guillemets. Oui, d'accord.
Je vous rappelle quand même que les experts sur les finances de Daesh ont indiqué qu'en 2014, on estimait leur revenu du trafic d'antiquités à 150 millions de dollars. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ils vendent, en fait, à quelques milliers de dollars, des permis de fouiller, je mettrai fouiller évidemment entre guillemets, vous en doutez, sur des sites de la vallée de l'Euphrate, et c'est comme ça que des sites comme Marie, comme Doura Europos et beaucoup d'autres ont désormais été complètement ravagés. Alors, pour en revenir à votre question précise, pour Palmyre, évidemment, tous les sites archéologiques, j'allais dire comme tous les biens culturels, la destruction d'un bien culturel, elle est toujours irréparable, irréversible. Alors, pourquoi s'inquiéter plus pour Palmyre que pour d'autres? Ben, tout simplement parce que Palmyre étant le site le plus emblématique de toute la Syrie, c'est évidemment à celui-ci que Daesh s'attaquera en premier et risque de faire le plus de dégâts pour des raisons purement idéologiques. C'est un groupe qui vit dans la négation de l'histoire, d'une certaine manière. Et qui vit, je dirais, à la manière des nazis avec leur obsession de la pureté raciale, eux, leur obsession, c'est l'idolâtrie, du moins en apparence. Et donc, tout ce qui n'est pas pieux musulman à leur conception de la piété, bien entendu, qui n'a rien à voir avec l'islam en général, est bon à détruire et doit être détruit. Alors évidemment, à Palmyre, ben, il n'y a rien d'islamique, ou à peu près rien, même si la ville a été occupée par les armées musulmanes après les années 640. Donc on risque effectivement la destruction totale.
Vous nous refaites, pardonnez-moi, Maurice Sartre, de vous le demander aussi rapidement, mais un point d'histoire, tout de même. Alors, voilà, qu'est-ce que Palmyre, pour ceux qui n'y sont pas allés. Parce qu'il faut rappeler tout de même que c'était en plus un des sites touristiques, évidemment, les plus fréquentés de Syrie, Maurice Sartre.
Mais Palmyre, si vous voulez, à l'échelle planétaire, je vais dire, oui. C'est un des sites majeurs de la planète. C'est l'équivalent de je sais pas, de Angkor, Machu Picchu, Petra, la Vallée des Rois en Égypte. Ça a à peu près cette... Et je ne connais personne qui soit allé à Palmyre et qui n'en soit pas revenu à la fois retourné, ébloui, et donc dont le souvenir est gardé à vie, bien entendu. Alors, l'histoire de Palmyre, c'est une très longue histoire, mais puisque la ville est connue dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, au début du deuxième millénaire, mais en réalité, la ville que voyaient les touristes, c'est essentiellement celle de l'apogée de l'époque romaine. Les ruines qui sont visibles aujourd'hui sont uniquement les ruines, en gros, entre le 1er et le 3e siècle. Alors, il faut rappeler en deux mots qu'à ce moment-là, Palmyre est une ville de l'Empire romain, ville frontière, certes, mais une ville de l'Empire romain. Contrairement à ce qu'on écrit partout, ce n'est pas du tout un état tampon entre Rome et les Parthes. C'est une cité romaine.
C'est une ville de l'Empire romain, clairement.
C'est une ville de l'Empire romain qui elle est annexée vers 17-19 de notre ère et elle devient au début du 3e siècle une colonie romaine, c'est-à-dire qu'elle jouit d'un statut même privilégié puisque son sol est assimilé à celui de l'Italie, ce qui la dispense de payer le tribut à Rome. Donc, c'est une ville de l'Empire romain, ville frontière et qui joue un rôle majeur parce qu'elle joue le rôle d'intermédiaire dans le commerce entre le monde méditerranéen et, j'allais dire, tout ce qui est plus à l'est. Non pas que les palmyréniens soient eux-mêmes de très grands marchands, mais ce sont de grands entrepreneurs de transport, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens, avec leurs chameaux, d'organiser des caravanes, ce que les marchands venus de Rome, de Grèce, d'Égypte, ou tout, d'où vous voudrez, n'ont évidemment pas les moyens de faire. Donc, la fortune de Palmyre, elle vient de ce rôle d'intermédiaire, pas du tout d'un droit de passage ou je ne sais quoi, mais bien de ce rôle, de cette capacité à organiser un commerce dans un milieu difficile, parce que traverser le désert, c'est quand même pas... c'est pas donné à tout le monde, ça demande une préparation, il y a des brigands, il faut dédommager des tribus qui sont sur le passage. Et puis, l'intérêt de Palmyre pour l'historien, outre l'intérêt des ruines par eux-mêmes, c'est que c'est une cité extrêmement ouverte sur l'extérieur. C'est une ville métisse, en quelque sorte. C'est une ville très mélangée.
Vous avez écrit dans un quelque part que c'est une ville originale parce que on y pratique notamment le bilinguisme, qui est si dans l'actualité en ce moment, si j'ose dire, un bilinguisme grec-araméen.
Grec-araméen, et bien entendu aussi le latin, parce qu'il y a une garnison romaine, il y a des changeurs, il y a des agents du fisc, et donc ceux-ci utilisent aussi le latin. On a à Palmyre des inscriptions trilingues, en latin, grec et araméen. Mais ce qui fait l'originalité de Palmyre, effectivement, c'est que la langue officielle des institutions de la cité, c'est le grec, bien entendu. Mais chose rarissime dans l'Empire romain et quasiment unique, on peut dire, eh bien, la plupart des textes sont aussi traduits, parfois résumés, en araméen. Ce qui fait que les textes officiels de la cité de Palmyre sont en grec et en araméen. Il n'y en a pratiquement pas d'autres exemples. Il y en a des petits exemples à Lepsis Magna, mais c'est tout. Donc, la langue courante de la plupart de la population, bien sûr, c'est l'araméen, mais en même temps, il y a des gens qui sont très hellénisés. Le grec est fréquemment parlé. Il y a à peu près un millier d'inscriptions grecques à Palmyre et dans ses environs, donc c'est dire assez l'importance de la culture grecque à Palmyre. Et des gens comme Zénobie, par exemple, la célèbre Zénobie, qui parle parfaitement le grec.
Attaquer Palmyre, ça a une valeur donc symbolique et émotionnelle aussi grande, au fond, que quand on a attaqué le musée du Bardo. Ça oui, participe du même principe, si j'ose dire.
Oui, parce que Palmyre, aux yeux des Syriens, Palmyre, c'est sûrement le symbole le plus parlant, le plus visible de la grandeur de la Syrie antique. C'est pas le seul sur le plan des historiens, évidemment. Et puis, c'est vrai que le site a pris aussi, peut-être pour des mauvaises raisons, une valeur emblématique dans l'idéologie bassiste. Or, c'est l'idéologie bassiste, il ne faut pas l'oublier, qui façonne un petit peu la pensée des Syriens, quel qu'il soit, depuis 50 ans. Et donc, en raison de l'aventure de Zenobi, c'est devenu une sorte de symbole à la fois de la résistance à l'occupant, au mépris de toute histoire, car l'histoire de Zenobi, c'est pas du tout ça, mais peu importe. En tout cas, c'est le site emblématique de la Syrie, j'allais dire comme les pyramides le sont pour l'Égypte, ou, ou le Mont Saint-Michel peut-être pour la France. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et donc Daesh a
ou le Louvre, on va dire le musée du Louvre, allez, quelque chose comme ça, quoi. Louvre, ou Versailles.
Daesh à Palmyre, c'est Daesh dans la cour du musée du Louvre. C'est la même chose.
À ce propos-là, nous avons interrogé au matin Moussa Bourepka, qui est chercheur au Centre de Barcelone pour les affaires internationales, qui a publié, lui, un article sur le site Orient 21e siècle autour de la redoutable fascination pour l'État islamique qui revendique une approche démystifiée du prétendu combat religieux mené par l'organisation État islamique. Écoutez-le, il évoque les destructions des sites archéologiques et qui, selon lui, relèvent d'une double stratégie à la fois émotionnelle à l'intention de l'Occident, mais aussi une stratégie à l'intention des potentiels candidats au djihad. Écoutez Moussa Bourepka, joint à Barcelone par Ambre Filouz-Rousseau.
Que ce soit ses cerveaux comme ses communicants, ils ont parfaitement compris qu'il fallait chercher une réaction qui soit intrinsèquement sur un registre émotionnel de la part de la communauté internationale. Au départ, quand il y a eu des persécutions, qu'elles soient chrétiennes ou yézidis, l'État islamique lui-même et ses protagonistes n'avaient pas à imaginer une telle réaction à l'échelle internationale. Et c'est à partir de là où ils se sont mis notamment à détruire certains trésors archéologiques dans la ville de Nimroud. Aujourd'hui, on parle de Palmyre. Donc oui, effectivement, je pense que c'est une stratégie délibérée qui consiste à braquer les projecteurs sur ce que fait l'organisation. D'une part, pour provoquer ces réactions émotionnelles, on va dire, et d'autre part, pour renvoyer à certains candidats peut-être hésitants ou à certaines personnes qui sont a priori séduites par cette organisation, leur envoyer le message que l'État islamique est là pour faire table rase du passé, pour édifier un État authentiquement islamique.
Maurice Sartre, et si Palmyre était détruite après tout, ça ne serait pas la première fois que des grands sites archéologiques seraient détruits dans l'histoire du monde. On peut le reproduire, c'est un drame total, on a conservé des choses, tout est en double, je ne sais pas, la question ne peut paraître iconoclaste, mais après tout, on a bien fait une deuxième grotte Chauvet, on doit pouvoir faire un deuxième Palmyre avec l'argent de Walt Disney un jour ou l'autre.
Il est sûr que nous avons des photos, des images de Palmyre, plus qu'il n'en faut pour la connaître dans ses moindres détails. Mais je crois quand même que le risque est majeur et que, on ne reconstruit pas un site de cette ampleur, c'est plusieurs dizaines d'hectares, faut pas l'oublier. Oui. Bien entendu, ce que n'auront pas les gens de Daesh, quoi qu'il arrive, c'est tout ce qui est encore enfoui et qui n'a pas été fouillé. Donc, bien entendu, il reste toujours quelque chose. Mais je crois que faut pas oublier que Daesh, comme quiconque aujourd'hui, bénéficie de moyens techniques que n'avaient pas les destructeurs des villes autrefois, que ça soit Aurélien, puisqu'on parle de Palmyre, il a été un de ceux qui ont détruit Palmyre à un moment, ou Tamerlan, ou qui vous voudrez, n'avaient pas les explosifs dont on a aujourd'hui l'usage et dont on connaît les dégâts ou dont on verra les dégâts de façon plus proche. Pensez que les Bouddhas de Bamiyan ont disparu quand même. Ce qui était très difficile à concevoir auparavant. Donc les moyens techniques dont on dispose pour détruire sont bien plus considérables. Donc ça, on ne peut pas le négliger. Et puis encore une fois, bien sûr, on peut reconstruire, mais une ville reconstruite, on a bien reconstruit Dresde, on a reconstruit Varsovie, on a reconstruit bien d'autres villes totalement détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et puis si on pouvait en faire l'économie, ça serait quand même un grand bénéfice, me semble-t-il.
Merci Boris Sartre de nous avoir rejoint au téléphone pour évoquer donc Palmyre. Je voudrais vous faire écouter encore un instant, et y compris à Jean-Pierre Filu, toujours Moussa Bourepka, qui dit qu'il y a au fond une sorte de double paradoxe entre l'aspect religieux des destructions de ces monuments historiques, mais pour pour Moussa Bourekhaï, peut-être ne serez-vous pas d'accord, je ne sais, Jean-Pierre Filiu, il y voit aussi tout de même une approche idéologique certaine hein, qui veut constituer par ce genre d'acte l'idée que l'État islamique serait vraiment un proto-État. Écoutez Moussa Bourekhaï au micro d'Ambre Filouz Rousseau.
Sur le plan idéologique, en observant aujourd'hui ce qui est en train de se passer, il y a la prétention de la part de l'État islamique de créer un État qui vive en autarcie et qui soit sunnite. Donc de là découle l'espèce de chasse aux sorcières et les persécutions à toute personne qui ne serait pas musulmane. Je pense que cela fait véritablement partie du projet de l'État islamique. Maintenant, est-ce que c'est cela qui guide les actions qui consistent à détruire des trésors archéologiques? Je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un génie communicationnel de la part de l'organisation, en même temps qu'une certaine pensée... une pensée politique, c'est-à-dire une manière de développer le projet politique de l'État islamique. Ce qui se passe aujourd'hui de facto, c'est une organisation politique qui porte un projet politique et qui contrôle un territoire assez variable dont certains disent qu'il est équivalent à la surface du Royaume-Uni. Et c'est un véritable proto-État en construction. Donc à partir du moment où l'on comprend ça, on est face à un acteur régional. C'est un acteur régional qui est en puissance, qui recule sur certains fronts, avance sur d'autres, mais qui porte un projet. Et à partir du moment où l'on prend cette donnée en compte, on n'est pas du tout dans une lutte qui consiste à défaire un ennemi religieux. Le combat n'est pas du tout religieux. Donc à partir du moment où vous avez une approche profane de cette organisation-là et moins idéologique, on peut véritablement se poser les questions fondamentales. Qu'est-ce qui fait son succès? Dans quel contexte est-ce que l'État islamique est en train de se développer? Et notamment... concernant les failles ou l'état manqué qu'est l'état irakien aujourd'hui, et quel est l'objectif à court, à moyen et à long terme de cette organisation-là.
Voilà, Moussa Bourekhaï du Centre des Affaires Internationales de Barcelone. Jean-Pierre Filiu, génie communicationnel, projet politique.
Je crois qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom, c'est un projet totalitaire. Alors, à moins qu'on considère que le totalitarisme est une politique comme les autres, et évidemment, il faut le défaire. Et c'est pour ça qu'il faut dire Daesh et pas dire État islamique, parce que c'est déjà lui offrir une victoire. Oui. Mais depuis le début de cet échange, on fait comme si le régime Assad protégeait les trésors archéologiques de la Syrie.
Non, j'allais vous... loin de nous, cette idée-là. Parce que d'ailleurs...
Pour arriver à Palmyre, il y a quand même des centaines de kilomètres de désert. On a une aviation syrienne qui aurait pu les pilonner mille fois et qui ne l'a pas fait parce que comme il est justement en difficulté, il voulait ouvrir cette séquence Palmyre qui de fait a mobilisé une grande partie de la communauté internationale et a présenté le régime Assad comme le sauveur de notre patrimoine commun. Il faut savoir que Palmyre est pillée par l'armée syrienne depuis des années, que les forces d'Assad sont installées dans la citadelle médiévale qui surplombe le site et à partir de ces positions, elles tirent dans la ville, y compris aux armes lourdes, contre les tribus qui étaient largement ralliées à la révolution en bas, et que on a, s'il y a des personnes qui croient, comme l'a rappelé avec beaucoup d'émotion Maurice Sartre, qui connaît ce site merveilleusement, la population de Palmyre a à peu près le même rapport que celle de Tombouctou, que celle de Petra avec son site. Et donc, pendant des années de révolution, le régime a tapé sur le site pour affaiblir la population. Et la plupart des gens qui sont tombés ces dernières semaines sont des civils qui ont été pris entre deux feux, des djihadistes d'une part et d'Assad d'autre part, dont j'ai la vague impression qu'il y avait quand même quelques canaux de communication entre eux.
Merci Jean-Pierre Filiu, restez avec nous donc pour la deuxième partie, avec bien sûr la question, s'achemine-t-on vers une chute probable, imminente de Bachar el-Assad? Deuxième partie qui sera bien sûr introduite par Brice Couturier. Brice, bonjour.
Bonjour Marc, oui, je voudrais poser une question que je trouve dans un très bon texte de Mahai Yahya du Carnegie Endowment, qui décrit en fait la totalité des États ou la quasi-totalité des États arabes aujourd'hui en état de dérilection, ne contrôlant plus leur territoire et dont la capitale est assiégé. Mais l'aspect favorable, positif de cette affaire, c'est que les populations ont de plus en plus tendance à compter sur leur propre force et que les jeunes aspirent à un changement radical qui leur donnerait enfin leur chance. Et elle pose la question, pourquoi faut-il que nombre d'entre eux, de ces jeunes, pour nombre d'entre eux, ce changement radical prenne le visage des dirigeants, vous l'avez dit, totalitaires et millénaristes de l'État islamique? Qu'est-ce qui attire tant de jeunes de la région dans le Daesh?
Donc rendez-vous à 8h15 avec vous, Jean-Pierre Filiu.